Bonjour très chers auditeurs, Catherine, aujourd'hui dans notre rendez-vous mensuel à votre santé. Des invités, des chroniques, des recettes toujours, des trucs, de la bonne humeur surtout et de la légèreté autour de la santé et du bien-être au naturel. Alors aujourd'hui, Margot va nous parler des journaux d'actualité positive. Puis je recevrai Julie Delforge pour le Feng Shui. Marine nous parlera des jardins mandala et puis Alice du magnésium. Et dans les trucs et astuces, vous saurez tout pour soulager les piqûres d'insectes avec des moyens naturels. Bonne écoute. Donc tout de suite, nous retrouvons Margot pour sa chronique. Bonjour Margot, tu vas nous parler aujourd'hui des journaux d'actualité positive.
Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler donc des journaux d'actualité positive. Il en existe de nombreux, il n'y a pas que des actualités négatives. Et donc, je commence par une étude qui est commandée par l'agence 3D Communication qui montre que les médias français diffuseraient en 43% de mauvaises nouvelles. Ce qui donne à la France la troisième place dans le classement du pessimisme médiatique, derrière l'Espagne et l'Australie. Et donc, que ce soit à la télé, à la radio ou encore dans les journaux, et même aujourd'hui sur les réseaux sociaux, parce qu'il existe plein de journées sur les réseaux sociaux en ligne, bien sûr, les informations négatives ont tendance à alimenter la peur, l'angoisse, sans jamais vraiment donner de solutions concrètes aux problèmes du genre pauvreté, guerre et autres horreurs. Et donc, une fois cette vague d'effroi balancée un peu à coups de mitraille dans nos oreilles ou dans nos yeux, on a plutôt envie de mettre notre cerveau sur pause, essayer de penser à autre chose, du style, tiens, si je regardais plutôt une de ces émissions toutes bêtes pour me changer les idées, éviter de trop réfléchir, on pense à la télé-réalité. Je pense que ça vous parle un peu, tout ça. Et donc, si vous aussi vous en avez marre d'être gavé par toujours plus de misère un peu partout dans le monde sans rien pouvoir y faire finalement, hein, mais pensez d'abord à ce proverbe tibétain, si un problème a une solution, alors il est inutile de s'en inquiéter. S'il n'en a pas, s'inquiéter ne change rien. Mais ce que j'aimerais surtout vous dire aujourd'hui, c'est qu'il existe de plus en plus de journaux d'information exclusivement positives. Ce sont principalement des magazines en ligne qui publient des articles tous plus motivants les uns que les autres, bourrés de bonnes initiatives et d'idées pour un monde meilleur. Et donc c'est en lisant ce genre de bonnes nouvelles que l'on se rend vraiment compte de l'ingéniosité de l'homme et de notre aspiration à aider les autres, à partager et à aimer tout simplement. Donc il existe, je vais vous donner une petite liste de journaux, donc en ligne principalement, qui vont vous redonner le moral, vous motiver dès le matin, en vous montrant que non, tout ne va pas mal dans ce monde. Il y a tout d'abord Un jour, un sourire, qui est un magazine participatif en ligne, dont la design est votre média positif, pour un sourire au moins une fois par jour. Il y a aussi Pep News, qui est créé par Eric Angioletti, ex-directeur des programmes d'Europe 1 et d'information d'Antenne d'énergie. Il y a aussi le Écolopop, revue internationale d'actualité positive, avec une ligne éditoriale plus tournée vers les avancées écologiques, mais aussi sociétales. On parle aussi de mode, de cuisine. Il y a ensuite Youfil, média de toutes les solidarités, ou encore Zapping, pour l'actualité positive exclusivement française cette fois-ci. Et enfin, Spark News, qui intervient afin de rassembler les reportages de solutions issues des médias du monde entier et de les partager pour susciter l'action, en fait. Donc voilà, si vous êtes attaché aussi aux bons vieux journaux papier, je vous recommande Lettre au Monde. Vous pouvez vous abonner en ligne sur le site internet pour recevoir le format PDF ou papier. Et enfin, dans un site plus féminin, je vous recommande d'acheter les magazines Happiness et Simple Things. Vu que dire des choses simples. Voilà, ces deux magazines sont disponibles dans les bureaux de tabac, presque. Voilà, j'espère que tout ça vous a donné envie d'agir et de créer toujours de plus belles choses. Et c'est pour ça qu'on est là, non? Voilà, je vous remercie. À bientôt.
Merci Margot. Au revoir. Et tout de suite, une petite pause musicale. Why don't you talk to me?
Why don't you talk?
suite dans notre dossier, le Feng Shui. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Julie Delforge. Bonjour Julie.
Bonjour Catherine.
Alors Julie, si tu veux bien te présenter.
Alors oui, ben je m'appelle Julie, voilà, je suis praticienne en Feng Shui traditionnel dans l'Aveyron depuis quelques mois. Voilà.
Donc tu as reçu une formation en Feng Shui traditionnel. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ?
Alors en fait, c'est une formation qui te permet au final d'avoir tous les outils en main pour faire une étude complète d'un cas, voilà, donc d'une maison, d'une entreprise, d'un terrain, avant un achat, voilà, tout simplement.
Oui, parce que c'est quoi le Feng Shui alors ?
Alors,
à quoi ça sert
Le Feng Shui, c'est ce qu'on appelait avant la géomancie. C'est l'étude des lieux et des courants énergétiques. On parle d'énergie subtile, hein, pas d'énergie électrique, parce que souvent les gens pensent que je fais ça, hein, que je fais des bilans énergétiques pour les dépenses et les économies d'énergie. Non, non.
C'est pas de cette énergie-là.
Non, non, non.
Dont
on parle pas de cette énergie-là. On parle de l'énergie vitale. Donc voilà, on étudie simplement les lieux propices pour installer une maison, pour s'implanter. Et évidemment, maintenant que notre terre est extrêmement fortement construite, on analyse les lieux construits. Donc la manière dont une maison ou un appartement va être porteur pour une personne ou pas trop.
Voilà. Parce que qu'est-ce qui va interférer au niveau de la maison, du terrain sur les personnes? Qu'est-ce qui va nous influencer? Qu'est-ce qui va quelle énergie on va tenir compte? L'énergie donc de la terre, l'énergie mm-hmm. tellurique, l'énergie de des courants d'eau qui peuvent mm-hmm. passer ou qu'est-ce que tu prends en compte? Qu'est-ce que tu mesures?
Alors, il y a plusieurs choses. Donc, en fait, l'énergie vitale, ce chi, ce souffle vital là dont on parle, dont il est question, c'est la nature qui le crée. C'est l'énergie cosmotellurique. Enfin, c'est l'énergie cellulaire. Enfin, je ne sais même pas exactement décrire et exprimer qu'est-ce que c'est le chi et cette énergie vitale. Par contre, la technique pour analyser, elle est quand même basée fortement sur les orientations cardinales. Et donc, à ce moment-là, c'est l'énergie magnétique de la Terre
D'accord.
qui est prise en compte. Et on a chacun des profils énergétiques qui sont reliés à ça. Donc, par exemple, je prends vraiment le nord magnétique. Je prends pas le nord géographique. Voilà.
D'accord.
L'énergie, elle suit la grille magnétique terrestre. Voilà. Et alors tous les courants telluriques, les cours d'eau, tout ça, c'est plutôt la géobiologie.
Oui.
Donc toutes les énergies souterraines, toutes les forces souterraines, toutes les forces terrestres qui sont hyper puissantes et qui influencent aussi, ça se superpose. En fait, la géobiologie et le feng shui, ça se superpose.
D'accord.
Voilà. Alors, ce qu'il y a, c'est que la géobiologie, souvent, on en sent les impacts. On va avoir des maux de crâne, on va avoir des sensations de froid, de se sentir mal quelque part, ou alors vraiment avoir des problèmes de santé rapidement. Donc, on sent tout de suite les effets d'un lieu où il y a des problèmes en géobiologie. Alors que le feng shui, on ne le ressent pas. On ne le sent
D'accord.
pas dans son corps, mais dans ce qu'on va vivre. Par exemple, si on commence à avoir... suite à un emménagement, si on commence à avoir des problèmes de couple, des problèmes de relations, on commence à s'embrouiller avec son collègue alors qu'avant ça se passait bien, voilà, des choses comme ça au niveau du comportement et tout ce qui est, par exemple, plein de petits contretemps qu'on n'avait pas avant, on devient tête en l'air, plus ou moins, entre guillemets, on perd ses clés, on met son portefeuille au lave-linge, enfin je sais pas, plein de petits trucs comme ça dans le comportement.
D'accord, ça peut nous amener à nous poser la question, est-ce que au niveau Feng Shui, mm-hmm. L'endroit où j'habite est équilibré ou je sais pas si on parle d'équilibre, on mm-hmm. parle de bonne énergie ou d'énergie...
Alors, en fait, toutes les maisons, elles ont normalement un équilibre positif et négatif, elles sont toutes équilibrées. La question, c'est comment nous, on utilise les maisons. C'est ça, en
D'accord.
fait, souvent, la difficulté, c'est que c'est pas la maison en tant que telle, c'est souvent les emplacements et les directions. C'est-à-dire que si on est dans une pièce qui va se retrouver dans un secteur qui nous soutient pas du tout, et une direction, par exemple, de tête de lit qui nous soutient pas du tout, ben, bah, déjà, on n'est pas soutenu. Voilà. Mm-hmm. Si, par contre, on est dans la bonne pièce, dans la bonne direction, on récupère de l'énergie. Le Feng Shui, ce qu'il veut faire, c'est nous éviter de perdre de l'énergie vitale. Donc, nous mettre dans les bons endroits et les bonnes directions pour avoir un maximum d'énergie, nous, et pas en perdre. C'est-à-dire essayer de nager avec le courant au lieu d'être à contre-courant tout le temps et de s'épuiser. Et l'objectif premier, c'était donc l'harmonie et la longévité.
C'est d'établir ou de rétablir des équilibres. En fait.
Voilà. En fait, c'est-à-dire, c'est de vraiment pas perdre d'énergie, de, entre guillemets, de pas perdre son temps à patauger, alors que si on se met dans une autre chambre ou juste mettre le lit différemment à un autre endroit, ou je ne sais pas, le bureau où on va passer 6 heures par jour, par exemple, ou 8 heures par jour, eh bien, récupérer de l'énergie là où on est, quitte à y être, plutôt que d'en perdre, parce qu'après, il faudrait bien la récupérer quelque part, cette énergie, et si on peut pas la récupérer, ça veut dire bosser 4 fois plus pour arriver au même résultat.
Tout à fait.
Voilà, c'est ça, en fait, l'idée. Effectivement, après, il y a certaines maisons qui sont particulièrement exposées, notamment au vent, ou alors certains lieux qui sont extrêmement yin, par exemple, au fond des vallées, extrêmement sombres. Bon, alors ça peut amener la dépression. Enfin, voilà, il y a certains lieux qui sont, de par leur
qui sont de fait,
voilà, effectivement, qui ont déjà une étiquette, on va dire, enfin, une identité énergétique. Mais on peut toujours améliorer son feng shui. On peut toujours améliorer, voilà, par les emplacements, les directions. On peut toujours améliorer les choses. Voilà.
Donc, dans une maison, par exemple, on va tenir compte de tous ces occupants.
Oui, exactement. C'est complètement personnalisé. En fait, l'étude, elle est assez longue. Hein. On analyse tout l'extérieur. On analyse l'énergie, l'identité propre à la maison par son orientation. Et ensuite, on analyse chaque secteur en fonction des personnes qui y habitent. Mmh. Donc c'est un gros travail global, en fait.
Et quand on fait appel à toi, alors comment ça se passe? Tu demandes des plans de la maison, de l'endroit déjà, tu te déplaces, comment tu procèdes?
Donc effectivement le plan de la maison, le plan d'architecte, le plan coupe, pour avoir tous les espaces au sol, pour voir la longueur, la largeur et puis la disposition des pièces, les dates de naissance des gens et la date d'emménagement dans la maison. Ça, c'est le matériel qu'il me faut en amont. Mm-hmm. Ensuite, bon, évidemment, je viens sur place et donc j'analyse tout l'extérieur, je prends les mesures d'impact, par exemple, s'il y a de l'eau, une rivière, une route, je regarde quel est l'angle d'attaque, entre guillemets, du flux par rapport à la porte d'entrée.
Oui.
Je regarde où sont les différentes portes, je regarde où sont les routes autour, où sont les collines, les montagnes, les cours d'eau. Si... Et après, je regarde sur Google Earth ou Google Maps s'il y a à 5-10 kilomètres, s'il y a un gros lac, une grosse montagne, je sais pas moi, une énorme voie ferrée à un moment donné qui passe. Hein, voilà, je regarde un petit peu tout le paysage autour, à plusieurs kilomètres aussi, parce que ça influence l'énergie. En fait, c'est comme si tout l'environnement extérieur, c'est la centrale énergétique, la centrale électrique qui vient nourrir la maison, que nous on est relié à tout cet environnement là.
Ouais, c'est intéressant, c'est large comme.
Ouais.
Et moi, je me suis intéressée il y a quelques années, hein, donc au Feng Shui. Il y a beaucoup d'écoles et je me suis un petit peu perdue dans toutes les orientations. J'entendais parler aussi de zones dans les maisons, zones de l'amour, zones de l'abondance. Est-ce que toi, dans ta formation, dans ton école, tu tiens compte aussi de ces choses-là? Est-ce qu'il y a ces différentes zones dont tu prends compte ou non?
Alors, dans des textes anciens, on retrouve effectivement ces différentes zones qui correspondent à certaines... C'est-à-dire, on prend en compte l'identité énergétique de la maison en tant que telle sans considérer celle des occupants. Alors, en fait, il y a tellement d'écoles en Feng Shui qu'il faut en pratiquer, il faut en fait être cohérent avec ce qu'on fait. En fait, Il y a une école, bon, que moi je ne suis pas du tout, c'est celle des bonnets noirs, qui est plus basée sur une espèce de religion, des préceptes un peu bouddhistes. Enfin, c'est beaucoup de projections, de pensées positives, de pouvoir de l'esprit sur les choses. Voilà, ça c'est plutôt un truc assez spirituel et donc ça n'a rien à voir avec ce que moi je fais. Parce que le feng shui, en fait, que moi je pratique, il agit qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. C'est d'accord. Comme l'air qu'on respire. On respire un air qui est archi pollué. On peut se dire que l'air, il est archi pur. Il est pollué et tes poumons, ils sont pourris. Donc voilà, le feng shui, il agit qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Donc moi, je reste là-dedans. Après, si tu veux, c'est un peu comme le qigong et la gymnastique. Alors là, je pratique un feng shui taoïste, un feng shui traditionnel. C'est comme si le qigong, c'est un travail énergétique profond de mouvements répétés pour faire circuler l'énergie le long des méridiens, en accord avec les saisons, pour aller nourrir certains organes, etc. Et ça peut être aussi personnalisé dans une optique médicale, un qigong thérapeutique. Donc ça, c'est pour, à un moment donné, les gens, ils vont se dire, je vais vraiment aller jusque là, j'en ai vraiment besoin. Mais ça n'empêche que tous les jours, on peut se faire sa petite gymnastique, s'étirer, avoir conscience de son corps, prendre soin de son corps, et voilà, essayer de se mettre en forme. Ben, en fait, le feng shui, c'est un peu ça aussi, c'est-à-dire qu'on peut prendre soin de sa maison, essayer de décorer, essayer de prendre un bouquin de feng shui donc occidental, hein, ce dont tu parles, avec que des secteurs positifs, amour, chance, soutien, enfant, carrière, etc., relation, et on peut très bien essayer d'harmoniser soi-même et de faire soi-même déjà beaucoup de choses. Et le feng shui traditionnel, il va vraiment beaucoup plus loin. Il te donne vraiment, ben concrètement, voilà où elle en est votre maison. Ça, c'est tous les points positifs, ça, c'est tous les points négatifs. Alors, en ce moment, moi, je réfléchis, je propose aujourd'hui deux choses. C'est-à-dire que je propose des études globales, traditionnelles, avec qu'est-ce qu'il en est de votre maison. Après, une maison, c'est un capital, c'est toute sa vie, hein. Et donc, pour les personnes qui voudraient harmoniser les choses et n'avoir que le côté positif, je propose un duo, c'est-à-dire que je fais l'étude des lieux, je ne garde que les côtés positifs, donc je dis aux gens, ça, ce sont tous vos bons secteurs, toutes vos bonnes directions, et là-dessus, je rajoute ce côté énergétique des lieux, avec les différents secteurs. Le feng shui, en fait, à l'occidental, c'est plutôt la part énergétique des choses, c'est-à-dire c'est un peu la loi de l'attraction. Dans le secteur amour, on voit qu'il y a, je sais pas moi, le balai, l'aspirateur. On dit c'est pas cool, on va tout ranger, mettre un joli rideau, des cœurs et amour. Effectivement, à chaque fois qu'on regarde cette zone, ben, ça nous amène plus d'énergie que de regarder le balai et l'aspirateur.
Exactement.
Donc,
oui.
C'est vraiment la loi de l'attraction.
Oui.
Donc c'est en plus. Et donc ça peut tout à fait se superposer. Parce qu'effectivement, dans le feng shui traditionnel, ben les gens qui ont des vrais problèmes dans leur vie, c'est clair qu'on va les retrouver. Donc ceux qui sont vraiment en demande, qui ont des maladies chroniques, qui sont sur le point de divorcer, qui ont des procès à répétition, qui ont des accidents tous les 4 mois, qui ont des pertes d'argent, qui ont jamais d'argent, qui sont toujours dans le négatif, ou voilà, qui ont vraiment des gros problèmes dans leur, donc, eux ils vont vouloir savoir le cœur des choses. Les gens qui veulent être bien. Et qui veulent pas, qui se sentent pas capables de gérer le côté prophétie autoréalisatrice, quoi. Ouais, ma maison mince, mon salon est dans un mauvais secteur, et qui à chaque fois qu'ils vont dans un salon, vont se dire, oh là là, je suis dans un mauvais secteur. On le fait pas. On dit, bah voilà, mets ton siège là, repeins comme ça, et voilà. Enfin, plus un côté énergétique, c'est vraiment, c'est deux branches qui peuvent très bien se compléter, quoi.
D'accord. Ouais. Bon, très bien. Nous allons peut-être faire une petite pause hein, et tout de suite une petite pause musicale et nous retrouverons Julie tout de suite après.
How come I end up where I started? How come I
Donc nous sommes toujours sur À votre santé avec Julie Delforge aujourd'hui, qui nous parle du feng shui traditionnel tel qu'elle le pratique. Alors Julie, tu exerces en Aveyron, mm-hmm. hein, tu es pas loin de Villefranche. Mm-hmm. Tu es où exactement?
Alors je suis basée à Rieupeyroux.
D'accord.
Et quand on m'appelle, je me déplace. En fait, je fais une partie, évidemment, toute une partie de l'étude est sur place, chez les gens. Et ensuite, une grosse partie se fait chez moi, avec les plans. Et donc, je planche sur ces plans pour, vraiment analyser toutes les possibilités. D'aménagement possible et de changement possible. En fait, les gens, quand ils me contactent, je leur demande une problématique. Donc, souvent, c'est vrai qu'il y a beaucoup de demandes qui concernent l'argent.
Oui.
Ce qui est un petit peu normal quand on voit que la pyramide de Maslow, elle nous montre que la base sont quand même les besoins vitaux, les besoins de survie. Donc l'argent, c'est quand même associé vraiment à pouvoir.
Est-ce que tu peux peut-être rappeler ce qu'est cette pyramide?
C'est la pyramide des besoins existentiels. Voilà. Donc on a donc en premier les besoins vitaux de base, s'abriter, se nourrir, la protection. Puis les besoins plus existentiels, les besoins sociaux, de groupe et d'appartenance. Et puis en tout dernier, les besoins de réalisation qui sont associés plus à la spiritualité, quoi, les besoins vraiment existentiels profonds. Et il y a beaucoup de demandes qui concernent l'argent, et on peut aussi avoir des demandes qui concernent les relations. Et alors aussi récemment, j'ai eu une demande concernant, je veux trouver ma place dans ma vie.
Oui.
Mais il se trouve que cette personne avait des gros problèmes de géobiologie aussi chez cette personne. Et donc on a pu faire géobiologie, donc moi c'est pas moi qui l'ai fait, c'est pas ma spécificité, et feng shui. Et là j'ai eu récemment cette personne qui m'a dit waouh, c'est fou,
ça a changé des choses dans sa vie.
Ouais. Et comme on l'a fait par étapes, il y a déjà eu la géobio, donc là il s'est déjà senti moins oppressé. Et qu'on a fait ensuite, le mois suivant, on a fait le feng shui. Et donc, il a aussi pu sentir l'effet du feng shui. Mais en même temps, il était dans la pire des énergies, là où il dormait. Sa porte était aussi avec vraiment une énergie assez raide, quoi, pour la santé. L'orientation du lit était aussi vraiment dans une énergie qui était vraiment pas cool. Et donc, le fait juste de changer la direction du lit, de mettre une énergie métal à la porte, une cure de sel... pour contrer une énergie terre, de mettre un remède à la porte, de réaménager un peu devant la porte, parce qu'il avait une grosse flèche aussi juste devant, un gros poteau là construit juste devant sa porte dans une résidence, et puis de changer le lit et de changer quelques couleurs et aménagements, il se sent tout de suite mieux, quoi.
Oui, parce que ça va se passer comment? Alors ces changements, c'est pas on casse la maison et on la reconstruit.
Ah non.
Non. Même si parfois il y a peut-être des petites choses quand même, des murs ou des portes, ou je sais pas comment ça se passe. C'est plus ça sera peut-être un peu réducteur ce que je vais dire, dans la déco, qu'il y a des choses à changer, ou l'aménagement, ou comment ça se passe en général?
Ça dépend vraiment des personnalités.
Oui.
Ça dépend vraiment des maisons.
Oui.
Et ça dépend vraiment où en sont les gens.
Mm-hmm.
Et de leurs demandes. Donc en fait, c'est vraiment, vraiment propre à chacun. Je propose toujours des solutions gratuites en premier. Mm-hmm. Par exemple, là, bouger le lit, changer le lit dans la chambre, le déplacer, le mettre à un autre endroit et mettre une cure de sel, c'est-à-dire un gros bocal avec plein de sel, un petit peu d'eau et puis 5 pièces de monnaie dedans.
Oui.
Ça coûte pas très cher.
Tout à fait.
Plutôt
oui.
7 pièces de monnaie dedans, voilà. Après, en l'occurrence, là, cette personne, je lui ai quand même conseillé de repeindre l'entrée en blanc, pour aussi avoir cette énergie métal, et je lui ai conseillé de trouver un aménagement de plantes pour essayer plus ou moins quand même d'atténuer l'impact de ce poteau en angle qui arrive juste sur sa porte. Mais c'est une personne qui n'avait pas de problème financier. C'était vraiment voilà.
Est-ce qu'il y a des conseils qu'on pourrait donner, des choses qu'on retrouve dans tous les cas ou des choses vraiment à faire ou à ne pas faire pour tout le monde, quelle que soit la problématique ou
Alors c'est assez difficile. Cette histoire de poteau juste devant la porte, c'est toujours un peu une catastrophe. Et même si on essaie de l'amoindrir avec des plantes, etc., ça reste quand même super compliqué. Mm-hmm. S'il y a vraiment un truc, ce serait pour l'eau stagnante. Si vous avez à côté de chez vous, par exemple, de l'eau un peu croupie, de l'eau, enfin voilà, quelque chose qui est assez, voilà, qui sent mauvais, une eau stagnante, nauséabonde autour de chez vous.
Oui.
Ce sera toujours créateur d'énergie néfaste. Donc, si c'est possible de, par exemple, si c'est un bassin, de le recouvrir hein, avec, je sais pas, des planches de bois ou je ne sais quoi, ou si c'est un étang, de placer des haies, enfin voilà, d'essayer de mettre quelque chose qui protège de cette influence-là, ou de nettoyer, si on peut nettoyer, refaire couler l'eau.
Peut-être mettre des plantes qui nettoient, qui,
voilà,
aussi,
si on peut
qui
mettre de la phytoépuration, voilà, c'est vraiment ça, l'eau croupie, l'eau stagnante, c'est vraiment pas cool, parce qu'en fait, l'eau, elle cumule l'énergie.
Oui.
Donc quand c'est une eau qui est négative, ça va avoir encore plus d'impact et ça va vraiment être pas être cool. Après, si vous avez, ce qui peut être compliqué aussi, c'est quand il y a des travaux et qu'on a en face de chez soi, en plein sur la porte, une grue ou un échafaudage. Enfin voilà, là, faut faire attention dans ces périodes-là, être vigilant. Mm-hmm. Mais après, il y a vraiment pas de conseils.
Parce que à l'intérieur d'une maison, par exemple, est-ce qu'on peut conseiller de mettre plutôt, je ne sais pas, moi, des couleurs claires ou plutôt que des couleurs foncées, ou mettre des plantes ou pas de plantes dans certains endroits ou choses comme ça peut-être.
Ouais, ça c'est vraiment tout l'environnement énergétique après, mais ça dépend de chacun. Mm-hmm. On dit souvent qu'il vaut mieux que la salle de bain soit plutôt claire, bleue ou verte parce que voilà, c'est déjà un endroit un peu enfermé. On dit souvent que les chambres doivent avoir des couleurs douces à propre au repos. On dit souvent que la salle à manger, ça doit être plutôt yang, c'est là où on mange, donc il doit y avoir une forme d'énergie qui doit être là. Mais après, c'est vrai que c'est dans l'analyse, on voit quelles sont les énergies présentes et s'il faut les accentuer ou les atténuer. Bon, après, ça dépend quand même vraiment. Mais après, c'est des conseils d'aménagement et d'aménagement, en fait. Mais ça, c'est le bon sens qu'on a tous, puis la fibre un peu de décoration qu'on peut aussi un peu tous avoir, quoi.
D'accord.
Mais après, c'est vrai que il faut éviter... Il faut essayer d'avoir voilà couleur chaude et couleur claire, pas trop de couleurs trop froides quand même. Enfin, je trouve que les couleurs froides c'est bien quand on habite vraiment sur la côte et que il fait super chaud. Bon, nous dans l'Aveyron, on est quand même dans un climat moitié montagnard, moitié midi. Enfin voilà, c'est le midi, mais c'est la montagne aussi. Donc les couleurs froides, oui, mais pas trop. Les couleurs froides pour les pièces plus au sud, les pièces au nord plutôt des couleurs chaudes. Enfin voilà, mais ça c'est ça rejoint le bon sens. Moi, je peux donner des conseils si on me le demande. C'est pas le centre de mon boulot.
D'accord.
Ouais.
Alors, par exemple, quand tu viens faire une étude, est-ce que c'est pour toujours ou alors s'il y a des événements, des personnes, des enfants qui arrivent par exemple dans la maison, hein, des naissances ou si la personne, s'il y a des grands changements, est-ce qu'il est nécessaire de refaire un bilan ou une étude ou comment ça se passe?
Alors, je vais reprendre un petit peu la question de tout à l'heure par rapport aux modifications à apporter. Alors, si tu veux, t'as une grosse partie de l'analyse qui va concerner tout le monde.
Oui.
Et une petite partie de l'analyse qui est personnalisée. Donc, les changements qu'on va proposer suite à une analyse globale vont concerner tout le monde. Donc, on va pas tout refaire de fond en comble s'il y a une naissance ou voilà. Par rapport aux changements dont tu me parlais tout à l'heure, effectivement, des fois, on va être amené. En fait, donc je propose tout ce qui peut se faire gratuitement. réaffecter les pièces, réaffecter les chambres à un moment donné, peut-être, tiens, tel enfant et tel enfant, ils auraient peut-être intérêt à intervertir la chambre. Peut-être que les parents, ils devraient finalement envisager de mettre leur chambre dans le bureau et inverser, mettre le bureau, enfin voilà, selon les énergies présentes. Après, c'est vrai que c'est, bah, faut le vouloir, enfin, faut que eux aient envie de changement, aient envie de changer les choses et d'améliorer leur qualité de vie par leur maison aussi. Mais en général, si on fait une étude, c'est que on se dit, ouais, il y a un souci chez moi. Et donc voilà, donc en fait, effectivement, dans ce cadre-là, parfois, ça peut être très intéressant d'ouvrir une cloison ou de remonter une cloison pour capturer une énergie ou en libérer une autre. Et d'un coup, c'est vrai que si la pièce de vie, elle passe d'une énergie conflit à une énergie richesse, abondance, etc., d'un coup, ça peut devenir super sympa, quoi. Après, donc, les enfants dépendent forcément du feng shui des parents. Alors, c'est vraiment les parents qui priment dans l'analyse et dans les changements. Et après, pour les enfants, effectivement, au fur et à mesure de des naissances, des, je sais pas, s'il y a une colocation ou un grand-parent qui vient vivre, eh ben on peut, oui, trouver les meilleurs emplacements pour chacun et les meilleures directions pour chacun.
Ah, ouais. Ça peut être aussi un changement de conjoint ou...
Oui, tout à fait. Donc, alors ensuite, il y a autre chose. C'est les changements temporels, donc effectivement il y a des énergies qui bougent et effectivement il faut régulièrement revoir. Enfin tous les ans je propose à partir du 4 février il y a des changements d'année. Hein, c'est, oui. Ça rejoint à peu près le calendrier chinois. Et ouais, il peut y avoir des changements d'énergie.
On propose un suivi, pour rééquilibrer en fonction de
l'énergie annuelle qui bouge.
Oui, ça bouge beaucoup en ce moment, hein, les énergies.
Ouais.
Voilà. Si bien. Merci beaucoup Julie pour toutes ces informations. Hein.
Merci à toi Catherine.
On pourra retrouver tes coordonnées, hein, sur le site de la radio. Peut-être as-tu une dernière petite chose à nous dire avant de nous quitter.
Eh bien, l'énergie dans les maisons, ça existe, ça vous influence. C'est un tiers de l'énergie de votre vie. Hein. Un autre tiers, c'est ce que vous faites chaque jour. Et un autre tiers, c'est votre naissance, hein, l'énergie de la naissance, la destinée. Donc l'énergie dans la maison, ça existe. Le manque de bol à cause de la configuration de la maison, ça existe. Donc si vous vous sentez concerné, appelez-moi. Voilà.
Oui, c'est vrai que l'énergie, c'est une grande loi universelle. Tout est énergie et tout vibre à un certain taux et on attire tout sur ce quoi on vibre.
Exactement. Hein,
donc effectivement, s'il se passe des choses pas très cool chez vous, posez-vous la question. Hein, peut-être que un rééquilibrage ce serait intéressant.
Ça peut être un des leviers du changement.
Oui.
C'est pas la panacée, c'est un des leviers parmi tout ce qui est, ce qui existe actuellement.
Oui.
Voilà.
Merci beaucoup, Julie. Au revoir.
Au revoir.
Et tout de suite, une pause musicale et nous retrouverons Marine juste après.
So well lately, lying to myself, just wait and see time of the month, so I'll just blame it all on that. But 1 week later, surprise, surprise, nothing in my pants, tears in my eyes, no reason why I feel so damn depressed. And so shrink down me, what's going on? I hate myself so bad, just can't hold on the feeling that I'm locked inside myself. But Sally girl, come on, don't be sad, yeah, just be strong. Don't see black or white, but see things small and grey. But I need explanations and some fitting solutions, cause I am turning into stranger more and more, yeah. Yes, I need explanations and some fitting solutions, cause my emotions make me feel so insecure. Lately, so I tried to act more naturally, but that story wasn't planned for me. And in
instead of it. I get more upset, bad thoughts are spinning in my head. Don't say blame it all on puberty. But I need explanations and some fitting solutions. Cause I'm turning into stranger more and more, yeah. Cause I need explanations and some fitting solutions. Cause my emotions make me feel so insecure. But don't fake it, embrace it. Cause it's just the way you are. And just wait, meditate. And some fitting solutions. Cause I'm turning into stranger more and more, yeah. Cause I need explanations and some fitting solutions. Cause my emotions make me feel so insecure.
Bonjour Marine.
Bonjour Catherine.
Alors aujourd'hui, tu vas nous parler des jardins mandala.
Oui. C'est ça, des jardins mandala. Alors, souvenez-vous, dans une chronique précédente, j'avais déjà parlé des mandalas, mais pour la méditation. Là, cette fois, on va parler de jardinage. Donc, pour rappel, hein, un mandala, c'est un dessin géométrique de forme circulaire censé symboliser l'univers. Donc, pourquoi organiser son jardin comme un mandala? Eh bien, parce que le vivant s'organise en cercle. Il suffit de regarder autour de soi pour s'en rendre compte. Regardez les fleurs, par exemple. Regardez la fleur de pissenlit, ou alors les étoiles de mer, les spirales des coquillages, ou même nos yeux. La forme que prennent l'iris de nos yeux s'organise en mandala. Donc finalement, faire un jardin mandala, c'est aller dans le sens de la nature et dans l'énergie de la vie. C'est donc tout à fait logique. Quand on questionne les visiteurs, et même si vous avez l'occasion de voir un jardin mandala, vous entendrez souvent que les gens sont surpris par l'énergie et la vitalité qui s'en dégagent. On constate que les végétaux plantés de cette façon poussent mieux et sont plus forts, plus nombreux que dans la culture classique. Donc le concept du jardin mandala, c'est de faire fonctionner les éléments ensemble grâce à la complémentarité des espèces et des éléments qu'on utilise dans le jardin, qui en s'alliant deviennent plus forts. Ça permet une interaction harmonieuse entre les différents composants pour une meilleure productivité de l'ensemble. En fait, cette pratique s'appuie sur les principes de la permaculture. Alors la permaculture, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est l'art d'aménager le territoire et cultiver la terre pour la rendre fertile indéfiniment. Une production agricole durable, économe en énergie, il y a moins de travail manuel, pas de mécanique, pas de carburant, et respectueuse des êtres vivants. C'est tout un écosystème productif en nourriture et aussi d'autres ressources, tout en laissant à la nature sauvage le plus de place possible. Donc en permaculture, on n'utilise ni labour, ni engrais, ni pesticides, ni sarcage, pas de travail du sol en fait. La terre se fertilise grâce à la faune et aux micro-organismes. Le jardinier, lui, se contente d'étaler un paillis qui va se décomposer et apporter l'humus nécessaire aux végétaux. Au moment de semer, on écarte simplement le paillis et ce qui n'est pas récolté reste en place pour se transformer. Donc on travaille avec la nature et non pas contre elle. Alors comment installer un jardin mandala sur son terrain? La valeur symbolique de cette pratique est forte, donc c'est pourquoi il faut respecter certaines règles quand on crée un mandala végétal. Son emplacement ne doit pas être choisi au hasard. Installez-le de préférence à l'intersection de quatre allées, orienté vers les quatre points cardinaux. Au centre, prévoyez un point d'eau ou une sculpture que vous aimez. Et vous pouvez choisir un thème si vous le voulez, mais ça, c'est pas obligatoire. Ensuite, il s'agit de trouver la forme que prendra votre mandala. Et là, c'est le moment de laisser parler votre créativité et d'en faire un croquis sur papier. Vous prévoyez l'orientation, les éléments que vous allez utiliser, les portes, les buts, etc. Au nord, vous plantez des végétaux qui symbolisent l'eau. Donc la rhubarbe, la bourrache, le concombre, toutes les plantes qui sont gourmandes en eau en fait. Hein, et vous pouvez les disposer en forme de vague. Sud, vous installez des fleurs qui vont symboliser le feu. Donc regardez le soucis ou les tournesols, des fleurs jaunes, orangées. À l'est, vous plantez selon l'élément air. Vous choisissez des graminées, des cosmos, du houblon, et vous les disposez en forme de spirale par exemple. Et à l'ouest, des végétaux qui symbolisent la terre. Donc des fleurs aux longues racines ou des légumes racines, comme les carottes, les betteraves ou les pommes de terre. Voilà, le jardin mandala produit bien plus que de la nourriture. Il se révèle capable de répondre aux besoins des hommes d'aujourd'hui et de demain en nourrissant notre corps comme notre esprit.
Eh bien, merci Marine. En tout cas, on peut demander à Julie quand elle vient faire l'étude de la maison, hein, en feng shui, de donner quelques conseils supplémentaires.
Exactement.
Par rapport au jardin mandala.
L'emplacement idéal. Voilà,
oui.
C'est ça.
Très bien, super. Merci. Au revoir Marine.
Merci, au revoir.
Maintenant, Alice et sa chronique Le Monde, l'assiette et moi. Alice qui est diététicienne et conseillère en alimentation santé. Bonjour Alice.
Bonjour Catherine. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du magnésium. Donc le magnésium, c'est un minéral et on en a à peu près en moyenne 25 grammes dans le corps répartis. Le magnésium a deux rôles principaux, même presque trois. Un rôle plastique, c'est-à-dire qu'il entre dans la constitution des tissus, les os, les muscles, le cerveau et d'autres organes comme le foie et les reins. C'est aussi un catalyseur, c'est-à-dire qu'il va agir dans la transformation des glucides dans le corps et aussi dans certaines réactions du système immunitaire. C'est un tonique général et il agit également sur l'équilibre du psychisme. Donc quand on est carencé, on peut connaître des épisodes de fatigue même prolongée, qu'on appelle la fatigue chronique, le stress, des spasmes nerveux, de l'ostéoporose, de l'hypertension. Et les signes qu'on peut avoir aussi, c'est des ongles cassants et des verrues. Ça peut être des signes de carence. Les besoins chez l'homme sont de 420 mg par jour et chez la femme, 350. Et on remarque qu'on est en carence dans les pays occidentaux. Donc voilà, où est-ce qu'on va trouver ce magnésium? On le trouve dans les céréales complètes, le pain complet, bio encore une fois, parce que comme c'est complet, et même les céréales, les pesticides se retrouvent dans les enveloppes, donc on va les préférer non traités. On en trouve aussi dans les légumes verts, les légumineuses, les graines oléagineuses et le cacao. Alors je vais vous donner quelques exemples. Alors un exemple de légumineuses, par exemple dans les lentilles, on a 107 mg pour 100 g. Dans les graines de tournesol, 353 mg pour 100 g. Amandes et noisettes, on est à 290 mg. Le persil, on est à 50 mg, les épinards 58. Et par exemple, la banane, qui est réputée pour être très riche en magnésium, n'a que 29 mg pour 100 g. En comparaison avec ce que je viens de citer, c'est assez peu finalement.
Oui.
On en trouve également dans la châtaigne et puis quelques plantes sauvages comme la bourrache, les feuilles de bourrache, le pourpier, l'oseille et le quénopode, entre 50 et 100 mg pour 100 g. Donc, il faut savoir que les végétaux cultivés en agriculture conventionnelle, c'est-à-dire avec beaucoup de pesticides et puis avec des cultures intensives, contiennent peu de magnésium parce qu'il n'y a pas de magnésium dans les engrais chimiques, en fait. Et donc, les sols sont très appauvris en magnésium au bout d'un temps et les fruits et légumes n'en contiennent plus. Donc, on préférera les fruits et légumes de saison et biologiques ou au moins cultivés de façon naturelle avec un sol qui est vivant et respecté.
Oui, si on veut avoir des minéraux,
voilà,
et des vitamines.
C'est ça.
Merci Alice.
Avec plaisir.
Pour tous ces renseignements. À bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Vous êtes bien sur CFM dans notre émission mensuelle À votre santé. Alors j'aimerais vous parler. C'est l'été même, hein, les petites bêtes qui piquent et qui peuvent nous gâcher la vie. Donc on peut soulager, hein, les piqûres d'insectes. Bon, déjà en éloignant, hein, les insectes, vous pourrez avoir comme plante le basilic, le géranium, la citronnelle, hein, tout ce qui est citronné va avoir un effet répulsif sur les insectes. Un petit truc aussi que vous pouvez tester, c'est un bouquet de feuilles de noyer que vous placez aux fenêtres. Hein, vous pouvez en placer aussi dans la maison. C'est un bon répulsif. Il y a aussi l'aspérule odorante que vous plantez dans le jardin. C'est un excellent diurétique, tonique, et c'est une plante digestive aussi. Et vous pouvez en faire des bouquets séchés à l'intérieur de la maison. Hein, vous pouvez aussi cueillir du basilic, du géranium, de la citronnelle, en faire des bouquets séchés également. en mettre dans des pots, en mettre devant la maison, devant les ouvertures. Ça va être joli déjà, mais aussi ça va éloigner les insectes qui nous dérangent, qui piquent. Il y a donc le géranium, j'en ai parlé, qu'on appelle aussi le pélargonium. Le tabac d'ornement, la poudre de pyrèthre. Alors ça, c'est naturel. Ce sont des fleurs séchées de chrysanthème. Donc vous pouvez en avoir sur les tables. Voilà, ça, c'est pas du tout toxique. Et puis la lavande qui n'attire que les insectes butineurs et qui déplaît vraiment beaucoup aux moustiques et aux guêpes. Donc ça, c'est déjà pour la prévention. Alors, mais si malgré ça vous êtes quand même piqué, parce qu'il y a des pots aussi qui attirent les petites bêtes, eh bien vous pouvez par exemple vous frictionner à l'endroit de la piqûre avec une ou deux fleurs de lavande, ou alors avec des feuilles de basilic que vous allez écraser entre vos doigts, ou bien du plantain. C'est comme les piqûres d'ortie, le plantain soulage les piqûres d'ortie. Et on trouve souvent d'ailleurs le plantain près des orties. C'est comme, c'est une petite parenthèse, pour soulager des piqûres de ronce, la feuille de ronce. Voilà, on a le poison et l'antidote, souvent l'un à côté de l'autre dans la nature. C'est bien fait. Et puis... quelque chose qui fonctionne mais vraiment très bien en cas de piqûre de petites bêtes, c'est l'huile essentielle de lavande aspic. Donc ça, c'est très efficace, ça soulage. Il y a un effet dans la lavande aspic anesthésiant, parce qu'il y a du camphre dedans. Donc vous pouvez utiliser une goutte de lavande aspic sur la piqûre. Vous renouvelez toutes les 5 minutes, jusqu'à ce que ça aille mieux. Et puis éventuellement une goutte 3 fois par jour. Donc là, les propriétés des huiles essentielles, c'est qu'elles sont toutes antiseptiques. Donc une piqûre, ça peut s'infecter parfois. Donc là, c'est parfait. Et la lavande. Alors, si vous n'avez pas de lavande aspic, vous pouvez aussi utiliser la lavande vraie ou lavande officinale. Elle est aussi antiseptique, bien sûr, et elle a un côté antidouleur. Donc, elle est cicatrisante, elle va faire du bien aussi. Mais c'est vrai que la lavande aspic, elle est vraiment très très bien pour les piqûres de toutes sortes. Alors, juste une petite recommandation, pour les femmes enceintes, la lavande aspic, vous pouvez l'utiliser plutôt après le premier trimestre de grossesse. Alors, vous entendrez que... Pardon. Sinon, vous pouvez aussi diffuser... dans un diffuseur d'huile essentielle, de l'eucalyptus citronné, du géranium rosa, de la citronnelle, de la lavande aspic. Alors selon ce que vous avez, vous choisissez, vous pouvez en mélanger plusieurs. Et puis, on a en homéopathie l'apis mellificat. C'est aussi intéressant, en 15 CH, 3 granules 3 à 5 fois par jour. Ça, c'est ce qu'on peut avoir dans sa trousse à pharmacie, l'huile essentielle de lavande aspic, le petit tube d'homéopathie apis mellificat, et ça soulage énormément, déjà ça. Vous avez pour calmer aussi, par exemple, une rondelle d'oignon. Vous allez frotter avec une rondelle d'oignon sur la piqûre, ou de citron. Mettre du vinaigre, ça peut aussi soulager. Et par exemple, pour les piqûres de fourmis, de l'ail cru. Vous frottez avec une petite gousse d'ail cru. Et puis, l'huile de calendula aussi, qui va soulager, comme celle du millepertuis. Mais en été, attention, hein, le millepertuis est photosensibilisant. Donc vous pouvez avoir des rougeurs ou des brûlures. Donc privilégiez en été ou si vous vous exposez au soleil, l'huile de calendula. Voilà, eh bien, bon été à tous. Voilà, c'est maintenant l'heure de nous quitter. Je vous souhaite un très très bel été, de belles journées. Prenez soin de vous, restez à l'écoute de CFM, mais surtout restez à l'écoute de vous-même. À très bientôt. Ciao. You.